Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, le Festival de Cannes a débuté, le voilà revenu au mois de mai, et contrairement aux autres années, eh bien seul un membre de l'équipe sera présent sur la croisette, donc pas d'émission spéciale, ce qui ne nous empêche pas de faire un éclairage sur le festival de cinéma le plus prestigieux au monde, et nous parlerons eh bien, du film qui fait l'ouverture, c'est-à-dire Le Coupé de Michel Hazanavicius, et puis on aura l'occasion aussi de jouer un blind test spécial Palme d'Or à Cannes. Il faudra bien découvrir 5 titres de films qui ont eu bien la prestigieuse récompense. Toi, Manu, tu as vu 2 films.
Oui, j'ai vu 2 films. Une production Netflix, Loin du périph', et puis une reprise, Les Femmes des Autres de Damiano Damiani.
Avant de parler du Festival de Cannes, on fait un petit tour du côté bien du périph', avec un buddy movie à la française réunissant Omar Sy et Laurent Lafitte.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Putain, Ousmane, mais viens pas là, tu vas me faire griller. Regarde ta tête, tu peux le flic à 100 bornes.
Y'a aucun risque là, c'est chez moi ici, je me fonds dans le décor.
Monsieur le policier.
Qu'est-ce que t'as dit ?
Pourquoi vous êtes la police, non ?
Circulez parce qu'il y a pas de queue.
Ah, circulez !
10 ans après avoir fait équipe, hein, Ousmane et François, 2 flics que tout oppose, reforment le tandem de choc de l'autre côté du périph'. Pour enquêter sur un meurtre sordide, soit le corps déchiqueté d'un homme retrouvé sur un train. Alors le crime a eu lieu ailleurs, dans une petite ville des Alpes, le train n'ayant joué que le rôle bien involontaire de transporteur. L'affaire semble simple, avec un coupable idéal rapidement désigné. Mais comme vous vous en doutez, les apparences sont bien trompeuses dans cette bourgade où gravite une milice d'extrême droite pas très recommandable, un maire à l'idéologie suspecte et une police qui ne semble pas faire avancer l'enquête. C'est le moins que l'on puisse dire.
Ah, d'accord.
Je suis sûr que t'es le meilleur flic de ta banlieue, mais ici, c'est Paris.
Jérémy, notre collaboration s'arrête ici.
Ah, bonjour, commissaire.
J'ai toujours été pour la synergie des services.
T'es un putain de lèche-cul, en fait, toi.
Monsieur Cadité vient de Bobigny.
Bobigny ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ?
De quoi ?
T'es malade ?
Bon, ici, c'est le 9-3.
Eh ben, dis donc. Heureusement que les vaccins sont à jour.
La vraie banlieue, elle a ce que t'auras jamais dans le 8e arrondissement. La fraternité, la solidarité.
Viens, les gars, au coin.
Et du cœur. Brigade criminelle, c'est ce que ça veut dire ?
Ouais, ça veut dire que tu vas rentrer chez toi plus tôt que prévu.
La fraternité est du...
Ils sont pas d'ici, eux.
Sans trop m'avancer, hein, puisque je ne l'ai pas vu, hein, il ne me semble pas nécessaire d'avoir regardé en fait, le premier opus pour comprendre les enjeux de Loin du périph', hein, qui succèdent donc à de l'autre côté du périph'. Et déjà, vous pouvez noter l'inventivité du titre qui promet des changements radicaux. Au dire de certains critiques, ce serait même un avantage de débarquer vierge dans ce buddy movie à la française, évitant ainsi de se farcir un remake plutôt qu'une suite. Mais en 10 ans, les choses ont certes changé car Omar Sy et Laurent Lafitte ne sont plus des débutants. La bonne surprise, c'est que le duo fonctionne plutôt bien, alignant les punchlines souvent bien senties. Même si à titre personnel, Lafitte, je trouve, est un bien meilleur acteur que Omar Sy. Les deux comédiens ont toutefois l'air de s'amuser, d'être en phase et de jouer l'un avec l'autre et non chacun de leur côté. Le problème vient d'ailleurs d'abord d'un scénario paresseux et caricatural dont on anticipe le moindre rebondissement présent dans tous les films américains du même Maccabi. Le personnage du traître de service n'étonnera que les amnésiques qui oublient tout à chaque film, popcorn, hein, ou qui n'ont pas vu de divertissement hollywoodien depuis 60 ans. Les seconds rôles sont à peine esquissés, alors la véritable plaie du cinéma commercial français, incapable de prendre au sérieux ce qui ne l'est pas, et de mettre un peu en retrait les stars du film. Alors derrière la caméra, Louis Leterrier, hein, revenu des États-Unis après le plutôt bon Hulk, hein, l'incroyable Hulk, et le très mauvais Choc des Titans, il fait ce qu'il peut pour sauver les meubles avec son petit talent de filmeur. Petit car visuellement Loin du périph' est assez ingrat, baignant dans une esthétique lisse et clinquante, assez typique d'une production Netflix, hein, agrémentée de scènes d'action, alors brouillonne sur fond de décor un peu en carton. Voilà. Le charme du duo ne parvient donc pas à sauver le film, alors non pas du naufrage, hein, mais du du produit calibré sans âme, parfois amusant, mais souvent pénible, que l'on peut à la limite trouver regardable, je dirais, un dimanche soir après un repas bien arrosé.
Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs, pour regarder ce film « Loin du périph' » de Louis Leterrier qui est diffusé sur la plateforme Netflix. On entame maintenant eh bien, cette grosse partie de l'émission consacrée au Festival de Cannes avec d'abord eh bien, tous les éléments qu'il faut connaître pour bien vivre cette édition.
This is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
Le Festival de Cannes, c'est parti, en mettant en avant l'émotion avec le souci du monde. Si on se fie à la cérémonie d'ouverture présentée par Virginie Efira, qui a vu Vincent Lindon, président du jury, prendre longuement la parole. Alors il s'est dit profondément ému, bouleversé et fier d'être président du jury de cette 75e édition du festival. Écrire un texte, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour réussir à parler, a-t-il commencé à dire avant de bien dérouler, pour parler de ceux qui saignent, qui souffrent, bien conscient que Cannes est une bulle dans un monde écartelé. Alors pour cette édition qui a vu la première standing ovation destinée à Forest Whitaker, Vincent Lindon eh bien, sera entouré de Asghar Farhadi, Rebecca Hall, Ladji Lee, Jeff Nichols, Deepika Padukone, Naomi Rapace, Joachim Trier et Jasmine Trinca pour décerner la Palme d'Or qui succédera à Julia Ducournau pour Titane. Alors comme chaque année, il y aura plusieurs sections, il y a évidemment l'officiel avec des films attendus comme celui de David Cronenberg pour Les Crimes du Futur ou encore celui de James Gray qui présentera Armageddon Time, nous plongeant dans le New York des années 80 en pleine ascension de la famille Trump. Alors on est content de revoir le cinéaste suédois Ruben Östlund avec Triangle of Sadness, lui qui a été couronné en 2017 pour The Square, film drôle et cruel. Alors il y a d'autres déjà couronnés, hein, du festival, puisqu'on a aussi les frères Dardenne qui viennent nous dire bonjour avec un nouveau film, le japonais Kore-eda et le roumain Christian Mungiu. Mais on sera attentif au nouveau film de George Miller qui délaisse Mad Max pour 3000 ans à t'attendre avec Idris Elba et Tilda Swinton, et puis peut-être au film de Park Chan-wook Decision to Leave. Les Français sont aussi représentés, évidemment. On trouve un petit frère de Léonore Serrail et on reste dans la filiation puisqu'on a frère et sœur d'Arnaud Desplechin, un habitué du festival, des Étoiles à midi de Claire Denis et enfin les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi. A priori, on ne sent pas trop que la palme pourrait être adressée à ces films, mais on verra bien ce que Vincent Lindon nous réserve compte tenu de son discours inaugural. Alors, place au premier film du festival. Il fait l'ouverture, il est hors compétition, diffusé dans de nombreuses salles en France. Nous l'avons vu, c'est Coupé de Michel Hazanavicius.
C'est mon film! Tu fermes ta gueule! Tu me fais chier depuis le début des répétitions! Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con!
C'est sans doute le projet le plus improbable de l'année. Imaginez plutôt, en 2019, sortait un tout petit film d'horreur intitulé One Cut of the Dead ou Ne coupez pas chez nous, réalisé par Shinichiro Ueda. Mettant en scène le tournage en temps réel d'un film d'horreur qui se retrouve contaminé par le réel, cette toute petite production japonaise faite de briques et de brocs a cassé tous les records partout où elle a été projetée, lui assurant une renommée mondiale qu'on ne pouvait lui laisser deviner. Vu son origine modeste ou son genre marginal. 3 ans plus tard, voici que débarque un remake français avec à la barre un réalisateur oscarisé et accompagné des comédiens français les plus en vue du moment et qui fait en même temps l'ouverture du Festival de Cannes 2022 en hors compétition. Improbable, on vous dit.
Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, hey, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis les grands mecs. Putain, tu m'étonnes que je suis Ken.
Ce qui va intéresser son réalisateur, hein, c'est bien évidemment son aspect méta, soit raconter le tournage d'un film dans le film et le processus de commenter tout cela d'un regard distancié avec à la clé un regard critique sur l'industrie. Ce qui semblerait totalement abscon hein, au départ ne l'est au final pas tant que ça, car il faut bien rappeler l'amour du cinéma et la cinéphilie très poussée d'Hazanavicius. Alors avant de se faire connaître pour ses OSS 117 et bien sûr The Artist, l'homme est derrière la vaste entreprise de détournement du, pour le coup, très bien nommé Le Grand Détournement, à ce film parodique pondu du temps où Canal+ vivait sa période dorée et où la créativité se frottait à une volonté assez réjouissante de casser les codes hollywoodiens classiques. Aznavissus, hein, étant un fin connaisseur de son média, avait su rire des productions Warner Bros. Tout en sachant comment agencer de façon savante son montage, à la manière de Woody Allen dans son excellent Lily la Tigresse. Ben, c'est peu ou prou cet état d'esprit que l'on retrouve dans Coupé, mais cette fois-ci dans une structure bien plus familière pour les amateurs de cinéma français, ou plus canonique, celle de La Nuit américaine de François Truffaut. Et puis, ben, il ne faut pas oublier tout l'aspect méta qui coule dans les veines des précédents films d'Aznavissus. Car que sont ces OSS 117, ben, si ce n'est une relecture amoureuse et décalée du cinéma de divertissement d'une certaine époque, et encore plus son fameux The Artist, si ce n'est une relecture aussi savante qu'émouvante des thématiques et de certaines situations de Chantons sous la pluie. La première chose qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi ? Mais car oui, pourquoi un tel projet ? Pourquoi un remake ? Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au-delà de son buzz planétaire, ne coupez pas, ce n'est pas qu'un film sur un mauvais film, c'était un mauvais film sur un mauvais film. Alors pour une fois qu'un réalisateur confirmé s'intéresse à la relecture d'un film assez mineur, c'est somme toute bien plus prometteur qu'une relecture forcément plus casse-gueule d'un film ayant accouché d'un classique ou d'un monument du cinéma. Alors je sais, c'est forcément paradoxal quand on a parlé plus tôt de The Artist reprenant les grandes lignes de Chantons sous la pluie, mais c'est là qu'un talent comme Aznavissus fait la différence. Ne coupez pas, ratez un peu tout ce qu'il entreprenait, en plus de faire figure d'un peu de vilain petit canard d'une production japonaise et asiatique tout court, bien plus inventive que ce film un peu moche et pas vraiment efficace. Pour preuve, si vous devez voir un seul film sous l'envers du décor du tournage d'un film d'horreur asiatique, regardez le génial Why Don't You Play in Hell de Son Ocean, qui arrivait à mixer comédie, gore et émotion au milieu d'une déclaration d'amour total à l'acte terroriste et parfois le simple fait de prendre sa caméra pour transformer le réel en fiction et vice-versa. En cela, Son Ocean est les plus proches d'Aznavissus, tant la figure du réalisateur devient celle d'un doux rêveur habité qui devient un chef de guerre lorsqu'il s'agit de mener son entreprise à bien au nom de l'art.
Et j'ai pensé à un truc mortel.
Ah ouais ?
Ouais, on va rajouter des sons de gratin, tu vois.
Gratin.
Ouais, des trucs qui grincent pour donner un côté mystérieux, flippant à tout ça, tu vois ou pas ?
Ah, des grincements ?
Ouais, des grincements, ouais.
Parce que t'as dit gratin.
Oui, mais des trucs qui grattent, qui grincent, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ?
Aznavissus s'est transformé en objet de cinéma, ce qui est difficile à résumer à l'intérieur d'un cadre, voire même extrêmement compliqué à reproduire. Il faut voir par exemple son brillant Le Redoutable, fausse biographie d'une partie de la vie de Jean-Luc Godard, aussi fine que touchante sur les hommes qui se posent des questions au nom de l'art et qui fut allègrement conspué par les gardiens du temple, incapables, eux, d'un quelconque recul ou de saisir une poésie savante pourtant inhérente au sujet. Coupé subira probablement le même accueil, alors qu'il brille justement de son statut de film qui vient après un film connu, et c'est de manière jubilatoire jouer avec ce décalage jusqu'à son casting impeccable, alors que la fine ligne entre exagération et ridicule était si facilement franchissable. Enfin, la blague la plus drôle sera sûrement celle de l'affiche du film japonais d'origine. On y voit trôner la très amusante phrase « le film qui a presque fait l'ouverture du Festival de Cannes », en 2022, on peut dire que la boucle est bouclée.
Saloperie de zombie !
Oui !
Nique-toi ! Nique-toi !
C'était dans le texte, ça ?
Ouais. Enfin, c'est pas au mot près, mais c'est l'idée.
Vite ! Allons à la voiture.
Putain, c'est nul, oh.
Bah, c'est pas... c'est de l'impro, quoi.
C'était Coupé de Michel Aznavissus, un film qui est maintenant sorti sur les écrans et qui a fait l'ouverture de la 75e édition du Festival de Cannes.
This is Cinerama.
Cette 75e édition du Festival de Cannes, qui a donc débuté, nous donne l'occasion de jouer à un blind test. Alors, la dernière Palme d'Or, c'était Titan de Julia Ducournau. Après, eh bien, avec ce blind test, il va falloir découvrir 5 autres films qui ont remporté la prestigieuse récompense.
This is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
C'est irrésistible, en effet.
Je préviens tout de suite, ça va être un blind test très facile. On commence avec ce premier extrait.
Les gestes se fixent tous dans une même attitude. Le geste du crime, partout le mal. Voilà le mystère de ta génération. Des dizaines d'hommes et de femmes liés par les fibres du même cancer. Tu t'es reconnu dans les tiens. Tu ne te distingues plus du troupeau. Pas un acte de ta vie qui n'est ailleurs sans double. Pas une pensée qui te soit propre. Une pensée qui n'est pas morte avec les morts. pas un geste qui ne fût depuis longtemps tracé, non pas semblable, mais exactement les mêmes, non pas répété, mais unique. Tu la sens, l'immense tromperie de ta vie? Tu l'entends, le rire de celui qui te trompe? Chacun de tes misérables ancêtres a reconnu et flairé en toi son bien et vient le reprendre, et toi, tu abandonnes tout. C'est comme si ce troupeau venait manger dans ta main sa propre vie. Que veux-tu leur disputer? Que veux-tu leur reprendre? Il te laisse la faute dans ton cœur d'enfant.
Ça a été trouvé, Manu.
Et c'est Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat en 87.
C'est ça. Adapté du roman du même nom de Georges Bernanos, la jeune mouchette 16 ans tue son amant. Tout le monde pense que le défunt s'est suicidé, mais l'adolescente ressent le besoin de confier son crime à l'abbé Donissan, le vicaire du village. Une relation étrange, malsaine et fallacieuse se noue entre eux. C'est une palme d'or qui a été donnée dans la douleur. Hein. Le public du Palais des Festivals n'était absolument pas d'accord.
Pas très content. D'ailleurs, il l'aura bien répondu, Maurice Pialat, avec un bras d'honneur.
C'est ça. 815 000 entrées en France pour Sous le soleil de Satan. Deuxième extrait de ce blind test, il faut découvrir une palme d'or à Cannes.
Fumier. Ordure.
Ah, écoute.
Non, ça va, dire rien, j'ai compris. Monsieur a l'effluve, hein?
Ouais.
Oui, toi. Monsieur les copeaux.
Ouais.
Tu parles d'une terreur. Ah, il est joli, Al Capone. Il est frais. Le palu. Je t'en foutrais, moi, du palu, tiens. Tu veux que je te dise? Tu crèves de peur, t'es une gonzesse.
Ah, je te défends de dire ça, hein, si t'étais passé par où je suis passé.
Ah non, dis tes histoires pelopes, hein. T'as peut-être été un homme dans le temps, je dis pas, mais ça remonte à ma grand-mère, ça. Maintenant, tout ce que tu sais faire, c'est de descendre les types dans le dos, là, sans risque. Parce que les risques, tu les aimes pas, hein.
Mais je les aime pas parce que je les connais. Toi, t'es comme ça, tu comprends? Tu fonces sans regarder. Tu crois que t'es incassable. C'est facile parce que t'as pas d'imagination. Moi, je guette le caillou ou le trou qui va nous faire sauter. Puis cette nuit, c'est comme si j'étais déjà mort 50 fois, moi. Ça se passe là-dedans, moi, tu comprends? Je me vois éclater, déchiqueter, éparpiller par tout... Ah non, non. C'est pas être une lope que d'avoir quelque chose dans le citron.
Tu devrais l'avoir où je pense, crois-moi.
Cause toujours, on en reparlera quand tu les auras accrochés aux branches, comme une paire de cerises.
C'est trouvé, Manu.
C'est le salaire de la peur de Clouzot, qui a dû avoir la palme en 52.
Ah non, 53.
53. Mmh. Ah,
mmh. Bon, c'était tout près. Adapté du roman du même nom de Georges Arnaud, en Amérique centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d'argent à qui acceptera de conduire deux camions chargés de nitroglycérine. Et ce, sur 500 km d'une piste qui n'est pas facile, et tout cela pour éteindre un incendie dans un puits de pétrole. Les quatre aventuriers sont choisis et entament un long voyage, et très dangereux voyage. Alors non seulement c'était la palme d'or du Festival de Cannes, mais ça a été aussi l'ours d'or au Festival de Berlin. Donc deux récompenses la même année, et puis ça fait presque 7 millions d'entrées en France, donc pour le salaire de la peur. Troisième extrait de ce blind test consacré aux palmes d'or du Festival de Cannes.
Colombe 4, ici, Grand-Duc 6. Allez, assez rigolé, en avant.
Rassez-moi tous ces arbres.
Grand-Duc 6, bien reçu. Colombe 13, tenez-vous prêt.
Ramène-moi ça, l'âge de pierre.
Épervier 12, Colombe 13, bien reçu. Il faut leur napalmer la ligne d'arbres là-dessous. Faites un passage et balancez la dose.
D'accord, 13, on cartonne et on les baise. Objectif.
Vous cousillez les mortiers planqués derrière cette ligne d'arbres en bas.
Bien reçu, c'est parti.
C'est bon, mettez le paquet. Et allez-y en formation serrée. Elle contre elle.
Je les connais, moi, les gars! Ils vont nous nettoyer le secteur en moins de deux, fiston! Tu vas voir ça!
Grand-Duc 6 à colombe 13. Les jets arrivent. Ils vont larguer d'ici 30 secondes. Faites dégager et planquez-vous. Attention, ça va barder.
Est-ce que tu sens? Quoi? Le napalm, fils! Y'a rien qui sente bon comme ce truc-là! J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Une fois, on avait lâché une chiée de bombe, arrosée pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macap de Viette, y'en avait plus un seul! Ça emboumait! Toute cette essence, ça sentait bon! La colline sentait! Ça fleurait. La victoire, quoi.
Évidemment, c'est trouvé.
Et c'est Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.
Oui, en 79, cette Palme d'Or, ex aequo avec Le Tambour. Donc, dans ce film, on retrouve Marlon Brando, Robert Duvall et Martin Sheen. Au Vietnam, le jeune capitaine Willard se voit confier par l'état-major américain une mission qui doit rester secrète, éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. Alors, à noter que le succès du film a sauvé le réalisateur du désastre financier auquel il était voué en cas d'échec, puisque Francis Coppola a dû investir une bonne partie de sa fortune personnelle dans cette aventure cinématographique qui a remporté un grand succès, 4,5 millions d'entrées en France. À noter qu'il y a eu un nouveau montage en 2001 qui est sorti sous le titre Apocalypse Now Redux et puis une version dite Apocalypse Now Final Cut sortie en 2019. Autre caractéristique de ce film, il n'a pas de générique de début. Voilà, on rentre directement dans le film. Apocalypse Now, donc de Francis Ford Coppola, Palme d'Or 79.
Une fois qu'on a compris la règle, à savoir je compte devant une consonne,
monsieur,
je ne compte
j'ai
pas
une question.
Devant une... Quoi ?
Bah, à ce qui paraît, hier, enfin, au conseil de classe et tout, vous m'avez cassé.
C'est encore une remarque sur la poésie, je le constate.
Mais moi je parle pas de poésie. Là.
Oui, je vois bien que tu parles pas de poésie, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, vous m'avez cassé ?
Bah, je sais pas, moi, vous m'avez cassé.
Il y a des gens qui ont dit que si tu continuais comme ça, je n'en étais pas vraiment, mais des gens ont pu des profs ont pu dire que si tu continuais comme ça, tu aurais peut-être quelques ennuis. Il ne s'agissait pas de te casser.
Ah ouais, mais c'est de la vengeance, ça. Même je comprends pas. Tous les profs, ils veulent se venger. Pourquoi ?
Quel rapport avec la vengeance ?
Ouais, mais quand vous dites et tout, je vais avoir des problèmes et tout, c'est de la vengeance, ça, non ?
Ça n'a rien à voir avec de la vengeance.
Comment ça, c'est pas de la vengeance ?
Mais pas du tout.
Mais si, c'est de la vengeance.
On n'est pas dans la rue, là. C'est pas ça. On te prévient. On n'est pas là pour se venger des gens, on est là pour essayer de faire régner la discipline. Tu comprends la différence ?
Je comprends pas.
Quand un juge condamne quelqu'un à une peine, c'est pas pour se venger de lui, c'est simplement pour faire en sorte que la société fonctionne.
C'est de la vengeance ce que vous faites, hein. Vous avez envie de vous venger,
mais
vous avez
le seum
contre moi.
Tu crois que moi j'ai que ça à faire, de me venger de toi ?
Ouais,
de
moi,
je me
réveille
le matin en me disant je vais me venger Suleiman ?
Vous dites que vous avez pas que ça à faire, hein. Mais en tout cas hier vous l'avez bien insulté. Eh Suleiman, hier il t'a trop insulté, hein.
Non, pas du tout, tu le
mens. Il a dit quoi lui déjà ? Il a dit, il était quoi ?
Il a dit que t'étais limité. J'ai même souligné tellement ça m'a choqué.
T'es limité ?
Quoi, moi je suis limité, moi ?
C'est bien.
Bah...
Donc c'était facile aussi.
Donc c'est le film de Cantet, de Laurent Cantet, Entre les murs.
Oui, film de 2008, donc Palme d'Or 2008, adaptation du roman éponyme de François Bégodeau, lequel a joué le rôle principal du film. Et ben justement, François est un jeune professeur de français dans un collège difficile, alors il n'hésite pas à affronter Esmeralda, Suleiman, Kumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques. Et en tout cas, c'était un beau succès pour ce film de Laurent Cantet, 1,6 million d'entrées en France. Il n'a pas tout le temps fait ça avec ses films. Cinquième et dernier extrait de ce blind test consacré aux Palmes d'Or du Festival de Cannes. Et croyez-moi, c'est facile.
College l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur un œil. Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. Si les niaques voyaient sa montre... Elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autres cachettes, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et... après 7 ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.
Évidemment trouvée.
Et c'est Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
Oui, Palme d'Or 94, au film avec John Travolta, Samuel Lee Jackson ou encore Uma Thurman. L'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle d'Hollywood à travers 3 histoires qui s'entremêlent. 2,8 millions d'entrées en France pour ce film devenu culte, dont on va tout de suite écouter un extrait de la bande originale. On referme la page dédiée à Cannes pour revenir eh bien, à des films qui sont en ressortie. C'est Les femmes des autres de Damiano Damiani, une bande d'amis qui se retrouve après de nombreuses années de séparation. Et on va terminer l'émission avec ça.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
La ressortie en copie neuve restaurée 4K de Les femmes des autres est l'occasion de réhabiliter d'urgence un grand cinéaste, Damiano Damiani. Alors connu essentiellement pour deux films qui comptent pourtant parmi ses plus faibles, le western parodique Un génie, une cloche et deux associés avec Terence Hill et Amityville 2. Ces deux œuvres de commande, donc impersonnelles, ont longtemps fait de l'ombre à une filmographie d'une richesse inépuisable que l'on peut scinder en deux. Alors d'un côté, le pur cinéma de genre avec des revendications politiques très marquées et un engagement radical, présent dans le western zapatiste El Chuncho et surtout dans toute sa série de polars remarquables. Parmi les meilleurs titres, on peut retenir La mafia fait la loi, Seul contre la mafia, Nous sommes tous en liberté provisoire et aussi bien sûr le Confession d'un commissaire de police au procureur de la République qui est donc ressorti il y a quelques semaines. Militant au PC, Damiano Damiani, sans faire de la propagande, a su sculpter avec lucidité les tares de son pays. Il a surtout compris l'intérêt d'utiliser le pur divertissement pour faire passer non pas un message, mais ses idées ouvertement, on va dire, un mélange entre le marxisme et l'humanisme. Et puis, de l'autre côté, il a réalisé des films d'auteur plus intimistes, confidentiels, d'une subtilité hors mode et hors temps. On lui doit une adaptation de L'ennui d'Alberto Moravia, qui s'appelle La Noia, un giallo expérimental, Una ragazza piuttosto complicata, et Les femmes des autres, titre qui nous intéresse, sorti en 1962. Alors, ces chefs-d'œuvre couvrent les années 60 et 70, âge d'or pour le cinéma italien. Il va tourner jusqu'en 2002 avant de s'éteindre à 90 ans en 2013. Une longue carrière pour un auteur passionnant que je vous invite à découvrir ou redécouvrir d'urgence. Les femmes des autres s'inscrivent dans la tradition, alors très en vogue en Italie depuis les années 50, des films de copains qui s'appuient sur une tonalité nostalgique et douce amère. Une bande d'amis se retrouve après de nombreuses années de séparation. Tous se rapprochent en fait de la quarantaine et souhaitent au cours d'une soirée retrouver le goût de l'insouciance de leur jeunesse. Mais au fil des heures, les souvenirs plus ou moins heureux s'égrènent, apportant peu à peu une tension dramatique à cette réunion d'amis plus factice que sincère. Les films de groupe ont engendré quelques classiques comme Il Vettelloni de Federico Fellini, Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola ou Mes chers amis de Mario Monicelli. Déjà révolté, Damiano Damiani l'envisage différemment, sous un angle plus noir, marqué par la lutte des classes. Pourtant, cette chronique sociale commence assez mal, avec des dialogues maladroits, voire gênants, où les auteurs confondent d'ailleurs pédophilie et homosexualité au départ, puis semblent verser dans une misogynie outrancière avec cette galerie de filles légères, limite potiches. Armés d'une grille de lecture contemporaine, on peut tiquer devant Les femmes des autres, laissant l'impression d'assister à une comédie dramatique un peu vieillotte, dépassée par ses enjeux, sans doute intéressants à son époque. Et puis, plus le film progresse, plus il dessine ses contours, sa raison d'être, sa modernité finit par éclater. Le scénario, brillant et malin, faisait finalement mine d'épouser une beaufrie datée, pas pire que celle des œuvres aux sujets similaires contemporains, comme Le cœur des hommes ou Les petits mouchoirs, pour dériver vers un pamphlet social désillusionné avec un personnage central de plus en plus attachant, Cesarino, le seul qui est resté fidèle à lui-même, sincère et attentionné. Le seul aussi qui n'a pas réussi au sens matériel, travaillant dans un cinéma de quartier et peinant à joindre les deux bouts. Alors quant aux autres, ils se révèlent au grand jour, petit à petit, parce qu'au début ils ont l'air sympathiques, tour à tour égoïstes, machos, arrogants, méprisants envers les femmes, qui, elles, au contraire, finissent par gagner en épaisseur et dignité. Damiano Damiani signe finalement l'antifilm de Pote, une œuvre assez ténébreuse, sous ses airs désinvoltes, qui, à travers sa galerie de personnages pathétiques, dresse un portrait rageur d'une Italie en plein essor capitaliste. Et on comprend finalement pourquoi Cesarino n'avait pas revu ses amis depuis longtemps. Ça n'en valait peut-être pas la peine. Valorisé en fait par un noir et blanc sublime, nous invitant à partager la virée nocturne de ces quelques tristes cires, Les femmes des autres est un film infiniment plus subtil que son début ne le laissait comme ça augurer.
Et ce film de Damiano Damiani est à nouveau dans les salles depuis le 18 mai.
Et pour ceux que ça intéresse, qui iraient faire un tour à Paris en ce moment, il faut savoir qu'il y a une rétrospective d'Amiano Damiani à la Cinémathèque de Paris, avec pratiquement tous les films qu'il a réalisés entre les années 60 et le début des années 2000.
Ainsi s'achève Cinérama.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, Manu, tu auras un film japonais.
Un film d'animation qui s'appelle Junkhead.
Et puis, c'est Guillaume qui s'est dévoué pour aller voir le Top Gun Maverick. Et nous continuerons à parler du Festival de Cannes. À la semaine prochaine.